Géopolitique, Toufik Ben Aïchouche.
Les Afghans aux urnes pour élire à la fois un président et des représentants pour leur province le 20 août dans un climat de violence pratiquement sans pareil depuis plusieurs mois. Les talibans ont juré de faire capoter ces élections, d'empêcher leur bon déroulement. Avec nous pour en parler, Mariam Abouzahab, donc chercheur, enseignante en sciences politiques à l'INALCO, et également son Excellence l'ambassadeur de la République islamique d'Afghanistan, Omar Samad. Les candidats, 41 sont en lice, on ne va pas tous les évoquer, il y en a qui ressortent évidemment et de très loin. D'abord, le président sortant, Hamid Karzai. Monsieur l'ambassadeur, vous l'avez bien connu, Hamid Karzai. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dresser son portrait, son parcours et puis son programme aussi?
Écoutez, bon, le président élu d'Afghanistan, élu en 2004, était un homme politique pendant presque toute sa vie. Il faisait partie de la faction des Moudjahidines qui était basée au Pakistan dans les années 80-90. Il est devenu beaucoup plus actif avec le mouvement de l'ancien roi Zahir Shah. Et puis en 2001, à la conférence de Bonn, il a été choisi parmi les Afghans pour être le chef de l'administration du gouvernement intérimaire en Afghanistan. Moi, en tant qu'Afghan, je peux vous dire ce qui est bien, c'est que maintenant, on a une quarantaine de personnalités qui sont candidats pour la présidence du pays. Il y a 8 ans ou 9 ans, les Afghans se battaient contre eux, l'un contre l'autre.
On se bousculait pas pour aller aux élections, c'est ça?
Et il n'y avait pas d'élections, on ne parlait pas des élections. Les femmes n'avaient pas le droit, aucun droit sous les talibans. Bon, la nostalgie, madame Abouzahab, je ne sais pas quelle sorte de nostalgie vous parlez, mais la seule chose que les talibans ont pu apporter à l'Afghanistan, c'était un prison, c'était de changer le pays en centre de concentration pour les hommes et les femmes et les enfants. C'est pas ça que les Afghans veulent. Vous devez aller visiter le pays et parler aux Afghans pour voir ce qu'ils veulent, quels espoirs ils ont pour l'avenir, pour leurs enfants, pour les femmes. Et vous savez, c'est pas seulement l'envoi des troupes américains ou des autres qui suscite l'insurrection. Écoutez, en 2002, moi j'étais à Kaboul, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, il y avait des troupes qui arrivaient. Il y avait beaucoup plus de troupes avec l'OTAN qui s'engageait dans les provinces. Vous n'allez pas me dire que c'était qu'il y avait une insurrection aussi qui montait. Non. Le problème, c'est, comme je l'ai indiqué auparavant, c'est que les réseaux talibans et terroristes dans notre région ont trouvé des sanctuaires et ont toujours des sanctuaires. Et ils ont les moyens financiers et des moyens militaires pour pouvoir rebondir. Et depuis 2005-2006, ils ont vu que peut-être que s'ils essayent et mettent l'effort, qu'ils pourront retourner en Afghanistan.
Monsieur l'ambassadeur.
La faute des Occidentaux, des Américains et des Afghans, mon gouvernement et moi, c'était de ne pas pouvoir bien prévoir ces sentiments et cette menace.
Monsieur l'ambassadeur, en quelques mots, le programme que propose pour ce nouveau mandat, donc Hamid Karzai?
Ben lui, il propose tout d'abord sur le plan de réconciliation qu'il est prêt à demander un loi jirga, une assemblée nationale, d'inviter les Afghans qui sont mécontents, qui veulent la paix, que ce soit taliban ou d'autres groupes, d'autres factions. Et il est, bien sûr, il veut continuer son programme de développement, il veut continuer son programme de pouvoir recevoir l'aide étrangère pour tous ses programmes sociaux et économiques du pays. Mais c'est la même chose que les autres candidats disent aussi. Ils sont tous presque d'accord. Bon, le docteur Abdullah, son mandat, par exemple, politique est un peu différent parce qu'il veut changer l'ordre constitutionnel pour avoir un peu moins de centralisation et un parlement un peu plus fort, un premier ministre peut-être, mais tout ça dépendra du loi jirga afghan. Tous ces gens ont leur programme et c'est bien. Moi, pour moi, en tant qu'Afghan, je vous dis, c'est très bien de voir mon pays, nos politiciens, nos hommes renommés et dans les milieux politiques avoir des débats, des discours et des engagements à ce niveau et qu'on ne se bat pas. Mais la seule faction qui se bat toujours, ce sont ces gens qu'on appelle les talibans.
Mariam Abou Zahab, le candidat Hamid Karzai, comment on peut qualifier son bilan?
Bon, son bilan a quand même été assez négatif du point de vue d'une bonne partie de la population, surtout à cause de la corruption. C'est le principal reproche qu'on va lui faire. Et puis la population aussi le trouve impuissant à la protéger et a l'impression que, bon, certes, il a le soutien de la communauté internationale et on a voté pour lui pour ça, en espérant que grâce à lui, eh bien, ça permettrait que tout l'argent de l'aide arrive en Afghanistan et d'avoir quelqu'un qui soit soutenu par les États-Unis. Notamment, mais bien sûr, il n'a pas tenu les promesses. Il avait fait beaucoup de promesses à tout le monde et beaucoup d'Afghans étaient déçus. D'un autre côté, quand je parle de nostalgie de l'époque talibane, ça veut dire pour les populations rurales pachtounes du sud, la nostalgie, simplement la sécurité de l'époque des talibans, c'est pas autre chose.
On parle pas de la liberté, bien sûr.
La liberté, ça c'est un concept pour les populations rurales pachtounes de Zaboul, de Ouzgan, de Helmand, de Kandahar. L'ordre taliban, c'était leur mode de vie rural habituel, donc ça les dérangeait pas trop. Donc c'est la sécurité qui pour eux était importante. Ça veut pas dire que les gens ont envie de revoir forcément les talibans au pouvoir à Kaboul, ça c'est un autre problème. L'insurrection, elle est quand même largement indigène. Il ne faut pas toujours dire c'est la main de l'étranger partout. Il y a des problèmes locaux et l'insurrection dans le sud, dans l'ouest, elle est largement indigène. Dans l'est, évidemment, là, peut-être on a d'autres problématiques.
Enfin,
mais ailleurs, c'est quand même...
Les voisins d'Afghanistan sont quand même responsables un petit peu du malheur afghan. On le verra tout à l'heure, mais autre candidat est de taille, c'est le docteur Abdullah Abdullah. Donc vous pouvez nous le présenter en deux mots.
Alors, le docteur Abdullah, lui...
Alors, contrairement d'abord à Hamid Karzai, il est à la fois tadjik...
Il est à la fois tadjik et pashtoun, mais il est surtout vu comme tadjik plus que comme pashtoun. Et bon, c'était donc un proche du commandant Massoud, c'est un ophtalmologue, et il a été ministre des Affaires étrangères de Hamid Karzai jusqu'en 2006. Beaucoup lui reprochaient en Afghanistan à l'époque de s'être entouré de gens de son clan, et notamment de Pandjiri. Et maintenant, il a un programme qui est un programme de changement constitutionnel, effectivement, parce que cette constitution avec un régime présidentiel, elle avait été faite un petit peu sur mesure pour Hamid Karzai. Donc il voudrait un régime parlementaire, véritablement, et une décentralisation plus grande, avec à terme des gouverneurs élus, des maires élus. Donc ça, c'est quelque chose qui tranche un petit peu sur le programme de Hamid Karzai.
Alors, c'est un diplomate brillant, tous ceux qui sont habitués à l'Afghanistan le savent, mais il a des mots très durs à l'encontre du président Hamid Karzai. Il dit en un mot, il a gâché une occasion en or.
Oui, ce qui est vrai, mais Hamid Karzai n'est pas responsable non plus de tous les malheurs de l'Afghanistan. Il avait quand même un peu les mains liées, il n'avait pas une liberté de manœuvre. Donc, bon, ça, c'est des propos de campagne électorale. Comme quand il dit que si Hamid Karzai est réélu au premier tour, eh bien, ce n'est pas crédible et que donc les gens descendront dans la rue avec des armes. Non, ça, c'est quand même extrêmement dangereux, d'ailleurs, de tenir ce genre de propos. Mais il est certain que si Hamid Karzai est élu au premier tour avec un taux de voix qui paraît peu crédible pour un certain nombre d'Afghans et notamment les principaux candidats rivaux qui ne seront pas forcément peut-être de bons perdants, là on risque d'avoir une situation assez chaotique, c'est certain. Et si par exemple Hamid Karzai est réélu au premier tour avec un taux de participation féminin élevé dans certaines régions, ça posera problème et on criera à la fraude et il y aura des contestations. Et là, on peut avoir une situation quand même assez délicate, d'autant plus que le second tour serait prévu début octobre, ce qui laisse une longue période d'instabilité qui coïncide avec le ramadan, etc.
Beaucoup de choses peuvent se passer, notamment encore une dégradation accrue en matière de sécurité.
Dans ce cas-là, oui, on pourrait le craindre.
Monsieur l'ambassadeur Omar Sama, donc, la participation à un gouvernement de Hamid Karzai, du docteur Abdullah Abdullah, est-ce que ça va gêner ce candidat qui prétend maintenant régner à la place du président, à votre avis?
Écoutez, je veux juste dire deux mots sur la corruption et les promesses qui ont été faites. Et je vais venir sur votre question. Oui, il y a la corruption en Afghanistan. Est-ce que cette corruption est totalement afghane? Non. Est-ce que les donateurs et tous ceux qui font partie des financements du développement et de tout ce qui se passe en Afghanistan font aussi part de la corruption? Oui. Il y a eu des promesses et il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a d'autres choses qui ne sont pas encore réalisées en Afghanistan. Je suis pachtoune, moi. Je ne veux pas que quelqu'un me dise que tu ne peux pas envoyer ta fille à l'école, madame. Comment est-ce que vous pouvez accepter ne pas comprendre que les pachtounes sont victimes de l'extrémisme qui vient au-delà de nos frontières?
Non, mais je ne le conteste pas.
Les pachtounes ne veulent pas l'ordre taliban. Ils veulent le développement, ils veulent que leurs enfants aillent à l'école, ils veulent qu'ils puissent avoir un meilleur niveau de vie, comme tous les autres Afghans. Ce ne sont pas des sauvages qui sont coincés dans l'histoire.
Non, non, mais
docteur Abdullah, j'étais son porte-parole pour 3 ans.
Voilà, donc vous le connaissez très bien.
Je ne suis pas Panchiri, madame. Je suis un Afghan, tout d'abord, et puis après, bon, je suis de Kaboul, et bon, mais je ne suis pas Pashtoun, mais ça ne m'intéresse pas. Ces issues ethniques en Afghanistan, c'est le fait que c'est un pays qui est fier de son histoire et du fait qu'on est tous des Afghans. Il a renvoyé des dizaines de Panchiri à la porte quand il était ministre. Il n'avait pas un sentiment de garder son clan près de lui. Moi, je l'ai constaté, j'étais son porte-parole et je n'étais pas Panchiri.
Il faut juste préciser que le docteur Abdullah, son père est Pashtun, sa mère est Tajik, si je ne me trompe pas, et donc
oui. Alors,
il a une appréciation ethnique.
Ils s'entendaient très bien, mais aujourd'hui, il a beaucoup
ce qui peut à la limite être un atout en sa faveur. Mais encore une fois, est-ce que le fait qu'il ait été ministre pour Hamid Karzai, le président sortant, et qu'il se présente contre le président, est-ce qu'il est crédible, le docteur Abdullah?
Je pense que oui, parce que le président a voulu travailler avec lui et le docteur Abdullah a voulu travailler avec le président jusqu'à l'année dernière. Les deux étaient prêts à avoir un plan commun et c'était pas seulement avec le docteur Abdullah, c'était avec Ashraf Ghani et les autres aussi.
Monsieur, dont on va parler dans
Mais ils ont eu des désaccords sur des problèmes que eux seuls comprennent mieux que moi. Mais ils ont décidé qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une collaboration à un moment. Même jusqu'à l'année dernière, il y avait beaucoup de mouvements pour rétablir un peu plus d'ordre et de collaboration entre tous ces hommes.
Alors, il y a autre outsider, autre candidat technocrate en l'occurrence, vous l'avez évoqué, Ashraf Ghani. Mariam Abou Zahab, en quelques mots.
Alors avant de répondre à votre question, je voudrais quand même rassurer monsieur l'ambassadeur. Je pense tout à fait que les Pashtuns ont envie d'envoyer leur fille à l'école et de vivre normalement, d'avoir la sécurité, d'avoir accès aux services de base. Je dirais que les Pashtuns, non seulement en Afghanistan, mais les Pashtuns des deux côtés de la ligne du rang sont les victimes de la talibanisation,
y compris
les Pashtuns pakistanais. C'est l'ensemble des Pashtuns qui sont victimes de cela depuis les années 80. Et aussi, il y a un sentiment national afghan, c'est absolument indéniable. Mais il y a une ethnicisation de la politique en Afghanistan et une sorte de polarisation ethnique qui est quelque chose qui n'existait pas auparavant et qui existe depuis la guerre civile de 92-96, qui a été renforcée sous les talibans et qui a été en quelque sorte institutionnalisée par le processus de Bonn.
Que chaque candidat d'ailleurs cherche à transcender. Hein.
Les candidats cherchent à transcender maintenant, c'était pas le cas aux élections précédentes en 2004, mais c'est un fait et il y a une polarisation ethnique en Afghanistan maintenant qui n'existait pas, qui ne se manifestait pas de la même façon auparavant. Alors, sur Ashraf Ghani Ahmadzai, qui est un technocrate, qui a passé une bonne partie de sa vie aux États-Unis, qui a travaillé à la Banque mondiale, qui donc ensuite a été universitaire et qui a été ministre des Finances du gouvernement Karzai, qui a été très efficace dans ses fonctions et qui ensuite a été à l'université de Kaboul et qui est reparti aux États-Unis ensuite. C'est quelqu'un qui n'a pas de sang sur les mains, ce qui est un énorme avantage parce que pendant toutes les périodes communistes et de djihad, il était à l'étranger. Et c'est un technocrate qui, lui, est le seul qui est peut-être véritablement un programme de développement pour la l'Afghanistan, et qu'il y ait un discours qui soit un discours qui plaît aux classes moyennes urbaines, qui plaît aux jeunes, parce que la jeunesse afghane urbaine, elle va voter très différemment de la génération précédente, parce que souvent elle a vécu, notamment les jeunes Hazaras qui ont vécu en Iran, et qui eux sont beaucoup plus ouverts sur le monde extérieur, qui fonctionne sur Internet, et Ashraf Ghani avait basé sa campagne là-dessus,
sur Facebook,
toutes ces méthodes.
Oui.
Bon, et là, ça plaît à toute cette classe urbaine éduquée, et ça plaît à la jeunesse afghane, qui, bon, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes parmi les nouveaux électeurs, et tout reste à savoir comment vont-ils voter, est-ce que ça va avoir une influence sur l'élection. Bon, Ashraf Ghani, simplement, il a un handicap, c'est qu'il n'a pas le soutien d'une organisation politique ou d'un parti, mais il a le soutien de sa tribu, Ahmed Zahi, qui est extrêmement puissante, et qui a des réseaux extrêmement puissants dans l'Afghanistan. Il ne va pas vraiment diviser le vote Pashtun, puisque cette fois, les enjeux ne sont plus des enjeux purement ethniques, mais c'est un candidat d'un nouveau style, qui a fait une campagne un petit peu à l'américaine, un peu différente, et il a été très brillant dans le débat télévisé auquel malheureusement le président Karzai n'a pas participé.
Monsieur l'ambassadeur, alors oui. Ashraf Ghani a une formule, il prône 20% de force et 80% de politique et de développement. Il le dit de cette manière, mais c'est une manière de dire Hamid Karzai, lui, c'est 80% de force et 20% de développement.
Écoutez, je vais laisser les candidats expliquer leur programme eux-mêmes. C'est pas à moi, en tant que diplomate ou d'ambassadeur, de me mêler aux affaires des candidats quelques jours avant les élections en Afghanistan. Je pense que les enjeux, je suis d'accord avec madame, que les enjeux sont moins ethniques en ce moment qu'ils l'étaient avant, que les Afghans, maintenant par exemple le docteur Abdullah, fait la campagne dans les régions Pashtun, Ashraf Ghani et le président Karzai font des campagnes dans les régions, dans toutes les régions de l'Afghanistan. Ça, tout ça, pour moi, c'est très positif pour l'Afghanistan. Le fait que les jeunes, une grande partie de la population, sont intéressés par tout ce qui se passe, par leur avenir, par les programmes des candidats, qui questionnent tout ce qui est présenté, tout ça, c'est très positif pour le pays. La seule chose qui nous manque, c'est la stabilité et la sécurité totale dans le pays. Alors, espérons que dans 5 ans, au troisième scrutin afghan, le problème de sécurité et de stabilité sera résolu avec l'aide de nos voisins, avec l'aide de la communauté internationale et bien sûr l'espoir des Afghans.
Mariam Abou Zahab, Ashraf Ghani a cette formule, un taliban, c'est d'abord un jeune au chômage. C'est une formule qui signifie beaucoup de choses. On va essayer de la décrypter. Il dit en fait, un taliban, développer l'économie, assurer le bien-être des gens, et les talibans seront en perte de vitesse. Vous êtes d'accord? Vous pensez que c'est possible?
Mais,
il a raison.
Bien sûr, il a entièrement raison et c'est possible. Bon, même si, contrairement à ce que dit un peu tout le discours occidental, les gens ne rejoignent pas uniquement les talibans pour être payés. Il y a une motivation idéologique, religieuse, de vengeance. Il y a énormément de motivations très différentes, tout simplement de lutter contre une présence militaire étrangère en Afghanistan. Il y a beaucoup de motivations. Mais il est certain qu'il y a un grand nombre de jeunes gens désœuvrés qui sont totalement désenchantés parce qu'ils avaient cru aux promesses, et notamment des jeunes qui étaient exilés au Pakistan et qui sont rentrés en pensant qu'ils allaient avoir un travail, que bon, les gens dans les camps au Pakistan, les amis de Karzai, ils ont promis une terre, une maison, un travail. Bon, d'accord, et puis on rentre, et il y a l'insécurité, et on n'a rien. Et c'est quand même la priorité pour les Afghans, c'est la sécurité, c'est le travail, la démocratie, ça vient après. C'est parce qu'ils ont des besoins absolument essentiels qui, actuellement, ne sont pas satisfaits. Et il est sûr que si on donne du travail à la majorité de tous ces jeunes, il faudrait en donner à tous, à toute cette jeune génération désœuvrée, ils auront beaucoup moins de raisons de rejoindre les talibans, parce qu'ils auront des intérêts directs à défendre, leur vie de famille, leur travail et autres, ils seront beaucoup moins motivés pour rejoindre les talibans.
Alors tous les candidats, on l'a vu durant cette campagne électorale, ont un problème en fait, c'est comment réintégrer les talibans dans la société afghane. Est-ce que vous pensez, vous, monsieur l'ambassadeur, que c'est possible?
Je pense que c'est possible pour certains.
Pour qui d'abord?
Pour ceux qui sont pas, qui font pas partie des groupes idéologiques, terroristes, qui font partie des réseaux terroristes dans la région, qui sont pas, ils n'ont pas été éduqués dans les madrassas fondamentalistes radicales au-delà de nos frontières.
Au Pakistan, en Arabie Saoudite, c'est ça?
Bien sûr, au Pakistan, qui maintenant est une menace pour le Pakistan même. Alors, vous voyez, je suis d'accord, il y a beaucoup de motivations. Il y a ceux qui font ça pour l'argent, il y a des jeunes. Mais pas tous ces jeunes qui sont venus du Pakistan sont devenus des talibans juste parce qu'ils n'avaient pas un travail. C'est pas correct.
Monsieur l'ambassadeur, bien sûr, la situation économique où donner un travail n'empêcherait pas quelqu'un de devenir taliban.
Alors,
c'est pas une condition, bien sûr.
Il y a ceux qui sont motivés par l'argent, par le manque d'emploi. Il y a des enchantements, absolument. Il y a des Afghans qui pensent que le gouvernement afghan n'a pas pu fournir les services, qui n'est pas juste, qu'il n'y a pas l'honnêteté, qu'il y a la corruption.
Bien sûr.
Je suis d'accord avec tout ça.
Oui. Mais monsieur l'ambassadeur, les talibans refusent à chaque fois cette offre de discuter et de trouver un arrangement. Est-ce que c'est être lucide que de leur proposer encore de.
Mais nous, on essaie parce qu'à chaque fois qu'on a une offre, il y a des Afghans qui viennent et qui acceptent. Mais ils font pas partie de la grande majorité de ces groupes armés à l'intérieur du pays. Oui, il y a des gens dans les localités, il y a des Afghans qui ne sont pas heureux avec, disons, le gouverneur ou quelqu'un qui a été élu, nommé par le gouvernement. Il y a la corruption. Mais tout ça ne pousse pas les gens à aller devenir des terroristes.
Pas uniquement, bien sûr.
Il y a beaucoup d'autres motivations aussi.
Bien sûr, oui, bien. Mariam Abou Zahab, est-ce que c'est être lucide et c'est possible de ramener des talibans dans la société civile et même aux affaires politiques en Afghanistan?
Oui, bien sûr. Là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Monsieur l'ambassadeur. Et pour une bonne partie d'entre eux, la très grande majorité d'entre eux, qui sont des gens qui ont un agenda purement local et national et qui ne se battent pas du tout dans des réseaux transnationaux ou pan-islamiques avec des objectifs qui vont bien au-delà de l'Afghanistan. Non. La très grande majorité des gens qui rejoignent les talibans, et on sait bien que bon, le fait d'être sans travail, je suis bien la première à le dire, que ce n'est pas la pauvreté qui entraîne des jeunes à rejoindre des groupes djihadistes. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres motivations. Mais la plupart d'entre eux sont simplement ce que j'appelle des islamo-nationalistes. Ils se battent dans un cadre afghan pour des agendas souvent extrêmement locaux. Et ceux-là sont tout à fait... doivent être réintégrés dans la société, dans le jeu politique. Et l'erreur qui a été faite au moment du processus de Bonn en 2001 était de les exclure complètement, à une époque où on pouvait réussir à le réintégrer. N'oublions pas qu'ils n'ont pas été vaincus militairement. Ils sont simplement rentrés dans leur village et ils ont attendu de voir un peu ce qui allait se passer. Et on savait très bien à l'époque qu'ils allaient réapparaître si la présence militaire occidentale était trop longue. C'était pas du tout une surprise quand on les a vus réapparaître. Alors, bien sûr, le soutien étranger, oui, il existe tant qu'il y a un sanctuaire au Pakistan et pas tellement dans les zones tribales pakistanaises, ça c'est une autre dynamique, mais au Baloutchistan surtout, tant qu'il y a ce sanctuaire-là, il est certain qu'on ne pourra pas venir à bout de ces combattants. Mais le problème, il est aussi afghan et indigène. Et en Afghanistan, la réconciliation, ça se fait par un compromis. Donc, on arrivera forcément à un moment, comme on a vu dans l'histoire de l'Afghanistan, après des périodes de 20 ans de guerre civile, on arrive toujours finalement à un compromis, quand on dit, bon, ça suffit, on en a assez, il y a assez de sang qui a coulé, et on va trouver un compromis. Et ça passe par la loya Jirga, ça passe par des institutions afghanes, et c'est aux Afghans de trouver cette solution.
Géopolitique était consacrée cette fois-ci à l'Afghanistan. Les Afghans se rendent aux urnes le 20 août prochain pour élire leur président et leurs représentants locaux. Le verdict sera connu quand, monsieur l'ambassadeur? Quand est-ce qu'on aura le résultat final?
Alors écoutez, je pense que on aura bien sûr des résultats qui vont être annoncés d'une façon informelle au mois d'août, au début septembre, mais je pense que c'est mi-septembre quand on a l'intention d'avoir les résultats formels.
Très bien. Ben, je vous remercie à tous les deux pour avoir participé à cette émission. Mariam Abou Zahab, chercheure, enseignante à Sciences Po et à l'INALCO, autrement dit au Langzo. Et vous, monsieur l'ambassadeur, monsieur Omar Samad, ambassadeur de la République islamique d'Afghanistan à Paris. Géopolitique, c'est la semaine prochaine. Mêmes ondes.